Chapitre 19. Les mutilations du traité de Versailles suite. L'Allemagne arme, la France désarme. Le général allemand Gröner a déclaré récemment qu'il était impossible à l'Allemagne de faire une grande guerre parce qu'elle était désarmée conformément aux injonctions du traité de Versailles. Ce mot « désarmement » s'applique surtout au matériel. Nous examinerons donc tout d'abord dans quelles conditions l'Allemagne en cette matière s'est conformée aux prescriptions du traité de Versailles. D'après l'article 164 du traité, l'armement de l'Allemagne ne devait pas dépasser les chiffres suivants. Fusils 84 000, carabines 18 000, total 102 000, mitrailleuses lourdes 792, légères 1134, total 1926. Canon de tranchée moyen 63, canon de tranchée léger 189, total 252, pièces de 77 204, obusiers de 105 84, total 288. Or, en se fondant sur des documents indiscutables, c'est-à-dire sur les crédits afférents au budget allemand depuis 1925 jusqu'en 1930, donc pendant les cinq dernières années, et par conséquent sans tenir compte des crédits qui précèdent, on trouve que depuis 1925, l'Allemagne a fabriqué 300 000 fusils, 20 000 mitrailleuses, 19 000 canons de tranchée, 2 000 canons. Comme munitions, toujours d'après les budgets précités, l'Allemagne a fabriqué pendant ces cinq années, de 1925 à 1930, 2 500 000 coups de canon, alors que le traité limitait le stock à 450 000, auxquels il faut ajouter les nombreuses munitions qu'elle a fait venir de l'étranger. M. Schneidemann, dans son discours au Reichstag du 15 décembre 1626, a été formel à ce sujet. De Stettin, nous avons reçu des informations absolument sûres d'après lesquelles le transport des munitions russes s'est fait sur plusieurs bateaux qui sont arrivés à Leningrad fin septembre et octobre 1926. Il y a là un témoignage allemand que l'on ne saurait contester. Il reste à examiner la question des avions, des tanks et des canons lourds formellement interdits par le traité de Versailles. Pour l'aviation, on sait comment l'Allemagne a tourné la difficulté. Elle a développé sur des bases énormes son aviation commerciale, tous ses avions devant être outillés de façon à pouvoir du jour au lendemain transporter un nombre énorme de bombes. Elle se flatte d'ailleurs de pouvoir mettre en ligne dès le lendemain d'une mobilisation plus de 1000 avions parfaitement outillés et d'être en état de fabriquer ensuite plus de 3000 avions par mois. L'entraînement de ces pilotes militaires continue à s'effectuer en Russie. Quant aux tanks et aux canons lourds, aucun contrôle officiel allié n'existant plus en Allemagne, rien n'empêche actuellement cette puissance d'en fabriquer autant qu'il lui plaira et de les dissimuler dans des dépôts clandestins. En tout ça, rien ne l'empêche non plus de passer par certains États voisins comme la Russie, la Suède, etc., des conventions lui assurant dès le début d'une guerre un matériel important. Plus tard, grâce à sa puissance industrielle, l'Allemagne saura se procurer le matériel complémentaire par ses propres moyens. M. Schneidemann, dans son discours du 16 décembre 1926, déjà cité, a fait à ce point de vue des révélations probantes. D'après un mémoire qui nous est parvenu, il a existé au ministère de la Reichswehr, sous la dénomination SG, une section spéciale. À Moscou, cette section a collaboré aux accords Junkers. Depuis 1923, elle a payé des sommes qui se montent à environ 70 millions de marks or annuellement. Il y a, dans une grande banque de Berlin, un compte sur lequel un fonctionnaire au ministère de la Reichswehr, M. Spangenberg, exécute les paiements nécessaires. En 15 jours à peu près, M. Spangenberg a payé des sommes se montant à environ 2,5 millions de marks. D'après d'autres renseignements, il est en liaison étroite avec l'organisation appelée Comptoir économique ou GEFU. Le directeur de cette organisation est un certain Otto Zurlehren, qui réside constamment à l'étranger, notamment en Russie. Par Spangenberg, quelques millions de marques ont été versées à la caisse de la GEFU, ce qui prouve que des rapports immédiats existent entre le ministère de la Reichswehr et la GEFU. La tâche de la GEFU consiste à instituer une industrie d'armement à l'étranger, particulièrement en Russie. La signature des accords a été faite sous de faux noms. Les officiers qui ont été envoyés en Russie et qui sont venus ont voyagé avec des passeports falsifiés. La GEFU avait également pour tâche d'établir en Russie des fabriques d'obus à gaz. Une fabrique de produits chimiques de Hambourg, bien connue, participe à cette opération. Au cours de cette même séance du 16 décembre 1926, M. Schneidemann présenta des documents découvrant les rapports de la Reichswehr avec la grande industrie et les collectes faites chez les industriels pour l'instruction et l'équipement des contingents non prévus au budget. En ce qui concerne les gaz, les incidents relatés par les journaux au cours de ces dernières années, notamment ceux de Hambourg, et surtout la dernière phrase du discours de M. Schneidemann, citée plus haut, montrent nettement que les usines allemandes sont prêtes à fabriquer et même fabriquent déjà tout ce que ne pourront pas fournir immédiatement les usines russes et peut-être d'autres encore. On peut objecter que les Allemands ont évidemment dépassé et de beaucoup les chiffres du matériel prévu par le traité de Versailles, mais que ce n'est pas ce matériel qui leur permettrait en tout cas d'armer les millions d'hommes que nécessite la guerre au XXe siècle. Le général allemand bien connu, von Seeckt, répond lui-même à cet argument dans son livre « Gedanken eines Soldaten »,« Pensée d'un soldat ». Les armées de l'avenir, déclare-t-il, n'auront pas intérêt à accumuler les stocks d'un matériel qui se démode très rapidement. Il suffira de construire quelques prototypes et d'en préparer la fabrication en série en organisant le passage des usines du régime de paix au régime de guerre. Mais cela nécessite naturellement des subventions de l'État. Voilà l'explication des sommes énormes prévues au budget de la Reichswehr pour l'acquisition d'un matériel qui paraît insignifiant. On saisit dès lors les raisons qui récemment ont incité le comte Bernstorff, commission du désarmement de Genève, à proposer la limitation des stocks de matériel, mais à n'accepter à aucun prix la limitation des budgets militaires. Dans le matériel nécessaire à la guerre doivent également être compris les chemins de fer et les automobiles. Or, sans parler du reste de l'Allemagne, que voit-on en Rhénanie même, c'est-à-dire dans une région occupée par nos troupes et par des troupes alliées, à Trèves et à Kaiserslautern, c'est-à-dire sous les yeux de nos généraux, les Allemands ont construit d'immenses gares de bifurcation et de triage qui, en cas de guerre, pourraient lancer et former 120 trains militaires par jour. Avant la guerre, elles étaient à peine en état de lancer 20 par jour. En plein Eiffel, un autodrome de 40 km de développement vient d'être construit, ainsi qu'un réseau de magnifiques routes pour y conduire. 5 autostrades sont en construction pour relier la rive droite du Rhin au Luxembourg et aux régions d'Aix-la-Chapelle et de Sarrebruck, avec ponts sur le Rhin à Duisbourg, Cologne, Koblenz, Mayence et Mannheim. Ensuite, dans toutes les régions rhénanes et westphaliennes, le service de la poste automobile a été développé dans des proportions inexplicables, pour ne pas dire inquiétantes. Partout circulent, nuit et jour, d'immenses cars pouvant contenir plus de 40 personnes et qui sont généralement vides. Les Allemands voient grand, mais font parfois trop de bruit. Cependant, l'article 43 du traité de Versailles est formel. Dans la zone démilitarisée est interdit le maintien de toutes les facilités matérielles de mobilisation. Méditez sur la règle et sur son application. À l'appui de cet exposé, et pour bien montrer qu'il n'y a rien d'exagéré, je citerai simplement l'avis d'un homme particulièrement qualifié dans l'espèce, le général Guillaume, commandant de l'armée du Rhin. Voici les conclusions du mémoire secret qu'il a adressé en 1927 au gouvernement français. Tous les renseignements recueillis depuis quelque temps par mon état-major concordent pour établir que le gouvernement allemand, celui de M. Stresemann, poursuit depuis un an environ l'exécution d'un plan qui vise à constituer, en territoire occupé et dans les différents domaines de l'activité militaire, une force capable, le cas échéant, d'intervenir rapidement contre nous. Cet effort de réorganisation de sa force militaire, le gouvernement du Reich le poursuit depuis longtemps en Allemagne non occupée. Mais pendant longtemps, la Rhénanie était restée en dehors de ce mouvement. Il n'en est plus de même à l'heure actuelle. De nombreuses organisations ont surgi en territoire occupé, dont le but est d'assurer le recrutement et l'instruction de la jeunesse en vue de la rendre capable d'être utilisée immédiatement pour des buts militaires. Le général énumère alors les formations d'infanterie, les sociétés de tir, les sociétés de cavalerie, les bases d'aviation, les ports aériens. Il fait apparaître le développement du réseau routier et ferroviaire, de la TSM, des organisations médicales de la Croix-Rouge, etc. Il conclut enfin « Les concessions faites au gouvernement allemand et qui se sont traduites en territoire occupé par un régime plus libéral à l'égard des populations » n'ont pas eu d'autre résultat en desserrant l'étreinte que de permettre à l'Allemagne de pousser en territoire occupé ses préparatifs d'ordre militaire. la présence dans les territoires occupés de l'armée alliée d'occupation a du moins pour effet d'entraver le développement d'un programme dont rien ne pourra plus paralyser l'exécution après l'évacuation des territoires rhénans par les forces alliées. Pour être en état de faire la guerre, il ne suffit pas d'avoir du matériel. Encore faut-il assurer un grand nombre d'autres conditions. Premièrement, autant que possible, avoir pour soi le nombre. De ce côté-là, aucune inquiétude pour l'Allemagne. Sa population n'augmente peut-être pas aussi rapidement qu'avant 1914, mais en tout cas, elle se maintient dans des proportions très supérieures à celles de la France. Deuxièmement, bien entendu, le nombre ne serait rien sans la qualité, c'est-à-dire l'instruction. Là encore, les hommes instruits ne manquent pas. Il y a tout d'abord les anciens soldats de la Grande Guerre, dont la plupart sont en état de reprendre les armes. Après eux, toute la jeunesse formée dans les innombrables sociétés dites sportives, mais en réalité de préparation militaire, et que tous les ministères allemands depuis 1918 n'ont cessé d'encourager. On a vraiment entendu que le Reich, en supprimant les sociétés casque d'acier consul et autres, démontra publiquement son esprit pacifiste. Surtout que l'on ne vienne pas objecter que les sociétés précitées ne s'occupent pas de préparatifs militaires, car je ferai appel au témoignage même des Allemands. Voici en effet ce que déclarait M. Schneidemann au Reichstag le 16 décembre 1626. En Hesse-Nassau, les organisations de tir avec des armes de petit calibre sont particulièrement développées. Depuis 1926, les hommes ne sont plus incorporés à la Reichswehr et on les envoie dans les associations où ils sont chargés de l'instruction. L'armée, le jour où elle le voudra, ne manquera donc pas d'hommes ayant reçu une instruction militaire. Mais les hommes ne suffisent pas, il faut les encadrer. La Reichswehr est là pour les fournir. D'après le budget même du Reich de 1929, le nombre des officiers de la Reichswehr est de 3798, celui des sous-officiers de 20880 et celui des hommes de troupes de 74020, ce qui donne un officier ou sous-officier pour trois hommes. Les deux premières catégories fourniraient les officiers, la troisième les sous-officiers. En dehors de la Reichswehr, il ne faut pas s'oublier la Schutzpolizei, 140 000 hommes, casernés et entraînés militairement, qui elle aussi peut fournir d'excellents cadres subalternes. Comme d'autre part, la Reichswehr se renouvelle à peu près tous les 12 ans, on voit qu'au moment d'une mobilisation, ce ne seraient pas les cadres qui manqueraient à l'Allemagne. En tout cas, au début d'une guerre, l'Allemagne pourrait opposer immédiatement 480 000 hommes à nos 240 000 hommes de couverture. Quatrièmement, en dehors de ces cadres pour la troupe, encore a-t-on besoin d'officiers d'état-major et d'officiers généraux pour le haut commandement. Ceux de l'ancienne armée impériale sont là avec l'expérience de la guerre mondiale. Tous sont prêts à marcher de nouveau avec ce puissant levier moral que représente l'espoir de la revanche. À tous ont été alloués des soldes de retraite très élevés à la condition de pouvoir convoquer leurs bénéficiaires fréquemment pour des exercices sur la carte et tous autres, dont on ne se prive pas. Le haut commandement allemand n'a pas oublié le leçon des de Moltke, von der Goltz, Kemmerer, Falkenhausen, von Freytag, von Schlieffen. Il continue à s'adonner plus que jamais aux études de la guerre de masse, c'est-à-dire de la stratégie, étude qu'il avait longtemps pratiquée avant 1914 et qui devait lui assurer la victoire si l'exécution avait répondu à la conception. Cinquièmement, quant au nerf de la guerre, l'argent, plus nécessaire que jamais dans la guerre du XXe siècle, il exige des développements de moyens toujours croissants, et l'Allemagne sait très bien que le parti allemand des États-Unis est aujourd'hui assez puissant pour lui fournir les emprunts nécessaires à son agression. Sixièmement, reste la question des forces morales, plus importantes que jamais à une époque où les peuples aspirent si ardemment et si justement à la paix. Sans doute, naturellement, en Allemagne comme partout, les ouvriers, les paysans, les petits bourgeois sont vraiment pacifistes et n'entrevoient de nouvelles tueries qu'avec effroi. Mais par contre, il ne faut pas se dissimuler que tous les fils des classes dirigeantes, tous ces jeunes gens qui fréquentent les gymnases et les facultés d'Allemagne, trouvent là des professeurs nationalistes ou populistes qui ne cessent de leur rappeler le « Deutschland über alles ». C'est là le gros danger pour la paix, danger que reconnaissent parfaitement les pacifistes sincères. Plus tard, dans quelques années, ce seront ces jeunes gens qui dirigeront les destinées de l'Allemagne. N'est-on pas en droit de craindre que la masse allemande, ouvriers, paysans, petits bourgeois, fidèle aux impulsions de son esprit grégaire, ne se laisse entraîner, comme en 1914, aux élans d'une guerre fraîche et joyeuse? En résumé, nous sommes bien obligés de constater que non seulement l'Allemagne ne désarme pas, mais qu'elle arme, au contraire. On ne saurait trop rappeler à ce sujet la phrase finale du rapport du général anglais Morgan, attaché à la commission militaire interalliée de Berlin, phrase qui dépeint au plus clair la situation actuelle. Je ne dis pas que l'Allemagne prépare la guerre, mais qu'elle se prépare. En effet, comme la masse du peuple allemand, le gouvernement du Reich, si bien personnifié, en l'occurrence par feu M. Stresemann, ne tient pas du tout à engager une nouvelle lutte avec la France. Il se rend parfaitement compte, et les mutilations perpétuelles du traité de Versailles lui ont montré qu'il voit juste, qu'avec de la patience, beaucoup d'audace et quelque habileté, il arrivera facilement à obtenir des gouvernements faibles et inconscients qui se succèdent en France depuis 1920 l'annulation presque complète du traité. Pendant ce temps, c'est-à-dire tandis que l'Allemagne se prépare, c'est-à-dire arme, que fait l'armée française? C'est bien simple, elle désarme. Son haut commandement semble avoir complètement abdiqué. Il a oublié que la première qualité d'un vrai chef, c'est le caractère. Devant les perpétuelles mutilations du traité de Versailles, c'est à peine si quelques généraux ont sérieusement protesté. La limite d'âge des généraux, qui, en pleine guerre, après 3 années d'une expérience chèrement acquise, avait été fixée à 60 ans, a été reportée successivement à 62, à 65, à 70 ans. Il n'y a plus de raison de s'arrêter, et cela pour donner satisfaction uniquement à des questions de personnes. Tout se paie, ces abdications de conscience, c'est le pays qui les payera un jour, et les payera cher. Les états-majors travaillent, mais travaillent toujours la tactique. Quant à la stratégie, c'est-à-dire l'étude de la guerre des masses, de la guerre au XXe siècle, elle est toujours aussi onie qu'avant la guerre. Foch avait fait créer un institut de stratégie. En le quittant, il s'en est désintéressé. Un institut des hautes études militaires est toujours à créer. Le nombre, nous l'avons, malgré la décroissance de notre population, grâce à nos colonies qui apportent aux 40 millions de Français un adjoint de 60 millions. En vain, von Seeckt préconise-t-il l'armée de métier. Avec une petite armée de métier, a-t-il dit, des moyens puissants, des avions, des gaz, nous viendrions vite à bout de cette vague formation, l'armée française actuelle. Pur bluff, pur camouflage, car mieux que personne, l'ancien chef de la Reichswehr sait que l'Allemagne prépare fiévreusement et très habilement une armée nationale, on a pu le voir ci-dessus. Cette armée nationale, en France, nous l'avons, mais à condition de l'instruire. Ce n'est pas ce que nous ont permis les nouvelles lois d'organisation qui n'ont eu jusqu'ici qu'un résultat de désorganisation. Certes, le service d'un an s'imposait, et dès 1919, on en avait fait préparer l'application. Tout devait être prêt pour 1924, 5 années gagnées. Mais il impliquait 150 000 militaires de carrière, et d'autre part des unités très fortes, concentrées presque sur toutes nos frontières, et maintenues sur le pied de guerre, seule condition pour assurer l'instruction intensive de nos contingents annuels. Dans l'organisation présente, on a conservé au contraire les unités squelettes. C'est là où nos jeunes soldats vont faire leur instruction, c'est-à-dire perdre complètement leur temps si précieux. Tous les hommes du métier sont unanimes à reconnaître que, dans les conditions actuelles, l'instruction n'est pas possible. Voilà où nous en sommes. Encore faut-il ajouter que le service d'un an ne devait être appliqué que lorsque les 106 000 militaires de carrière, jugés indispensables, seraient complètement recrutés. Or, le service d'un an entre en ce moment même en application. Où sont donc les fameux militaires de carrière? Le ministre de la guerre a reconnu lui-même qu'il ne les avait pas. Et cependant, c'est parmi eux que l'on doit prélever les cadres nécessaires pour l'instruction des contingents annuels. Un des principaux enseignements de la Grande Guerre, c'est que le matériel joue au XXe siècle un rôle beaucoup plus important que ne l'avaient prévu les professionnels avant 1914. Or, cet enseignement, si chèrement acheté, est déjà presque oublié. Comme je l'ai fait remarquer, il n'y a pas intérêt à accumuler des stocks trop volumineux dans les arsenaux, mais il y a une limite à ne pas franchir, et en France, à l'heure actuelle, cette limite est depuis longtemps dépassée. Sans entrer dans les détails que l'on ne doit pas divulguer, il est permis de rappeler, comme toute la presse l'a déjà fait, que nos approvisionnements en matériel de guerre ont été fortement réduits à la suite des affaires marocaines et que depuis, rien n'a été fait pour les compléter. D'autre part, le matériel se déclasse assez vite. Il serait donc prudent d'adopter de nouveaux modèles, surtout pour notre fusil mitrailleur, nos tanks et nos canons de tranchée, quitte à n'en fabriquer qu'une partie et à nous tenir prêts à fabriquer le complément en cas de tension diplomatique. Des études ont été entreprises, plus de 10 années se sont écoulées depuis la fin de la guerre, mais aucune décision ferme n'a réglé la question. En ce qui concerne l'aviation, il a fallu également plus de 10 années pour créer ce ministère de l'air. On a fini par le constituer, mais dans quelles conditions ? L'aviation dépend maintenant du ministère de l'air, mais en même temps des ministères de la guerre, de la marine, du commerce, et en réalité sans en dépendre véritablement. Confusion partout, le principe de l'unité de commandement a été une fois de plus oublié ou violé. Quant au matériel lui-même, il vaut mieux ne pas en parler. Les accidents journaliers sont, hélas, là pour montrer jusqu'où a pu aller l'incurie du gouvernement. Qu'a-t-on fait également pour la guerre des gaz, qui prendrait dans les rencontres futures une importance capitale? Des réunions, des commissions, des palabres, des projets, mais là non plus, rien de décisif. Cependant, ne voit-on pas des pays comme les États-Unis, qui, en ce moment, n'ont rien à craindre de très grave du Japon ou de l'Europe, construire dès maintenant des usines capables de produire par jour 40 tonnes de lewisite, gaz plus puissant que l'hypérite? Cependant, il ne faudrait pas, en dehors des préparations d'ordre purement militaire, négliger la préparation financière, dont personne n'ignore la nécessité. Si la France venait à être de nouveau attaquée, de puissantes ressources financières auraient à soutenir la guerre. Où les prendre? Sans doute notre redressement financier s'est remarquablement exécuté, du moins en surface, mais en tout cas ce ne serait pas avec ces seules ressources que la France pourrait répondre à ses immenses besoins. Il lui faudrait forcément, comme elle l'a fait en 1914 et 1918, recourir à des emprunts extérieurs. Pour ces emprunts, elle ne pourrait s'adresser qu'à deux pays, l'Angleterre et l'Amérique. Mais depuis 10 ans, où en est notre politique à l'égard de ces deux nations? Nos concessions perpétuelles à l'Allemagne n'ont pas donné aux Anglo-Saxons cette impression de puissance, de fermeté et d'énergie qui inspire confiance. On peut se demander enfin si, dans le cas d'une nouvelle agression, on trouverait chez le peuple français cette même force morale dont il a fait preuve en 1914. Depuis 10 ans, ses dirigeants l'ont si bien chloroformé, lui ont si souvent répété que personne ne voulait plus de la guerre et que par conséquent il n'y en aurait plus, qu'il a fini par le croire. Notre peuple, d'ailleurs, s'y est trop bien prêté. Je ne doute pas qu'il n'ait au dernier moment ce sursaut de vaillance qui lui a souvent réussi, mais au bord même du gouffre, le redressement ne peut s'accomplir sans pas dangereux. La grande erreur des gouvernements qui se sont succédés en France depuis 1920, c'est d'avoir bercé notre peuple de concessions sans lui faire comprendre, d'abord qu'une nation ayant un passé comme le nôtre ne pouvait accepter la paix à tout prix, c'est-à-dire auprès de toutes les capitulations d'honneur, ensuite que cette paix avec des voisins comme les Allemands, il ne l'assurerait qu'en s'imposant les sacrifices nécessaires. Être fort depuis que le monde existe, c'est la question. L'Allemagne y est fidèle. L'Allemagne veut peut-être la paix, mais cette sorte de paix effacera les dernières traces de sa défaite. Voilà pourquoi elle se prépare. Les chiffres suivants sont éloquents, plus d'ailleurs que toutes les dissertations possibles. En 1928, la France a dépensé pour ses forces militaires 6 milliards, l'Allemagne 8. L'Allemagne ne cesse d'armer, la France ne cesse de désarmer. Pour quel résultat ?